Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez particulière, celle de Camille et de son petit dragon, Brindibule, pendant leur séjour en Périgord. Les sources nous disent qu'après une autre aventure, ils avaient envie d'explorer un château de la Dordogne. Il y en a 1000, c'est vrai, mais ils cherchaient quelque chose de moins austère.
Oui, voilà. Quelque chose qui tranche avec la forteresse médiévale classique. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont dirigés vers le château des Milandes.
Ah, les Milandes!
Exactement. Et ce n'est pas un hasard. Les anciens propriétaux, les Comons, le préféraient eux-mêmes à leur autre château, Castelnau, jugé trop rude.
D'accord.
Et bien sûr, les Milandes, c'est indissociable d'une figure absolument iconique, Joséphine Baker.
Voilà, c'est là qu'on voulait en venir. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir ce que Camille et Brindibule ont bien pu trouver là-bas. Qu'est-ce qui reste de son esprit, de son histoire, dans ses murs? Bon, allons-y. Alors, leur arrivée. Les textes décrivent un vrai émerveillement. C'est un peu le château de conte de fées, non?
Avec les jardins impeccables, les tours.
Tout à fait. Une atmosphère très lumineuse, mais aussi un peu mystérieuse. Qui domine la vallée de la Dordogne, on comprend que Camille ressente cette curiosité, cette espèce de joie calme.
Mmh. Et ce cadre très paisible, en fait, ça prépare le terrain pour une rencontre plus subtile. À l'intérieur, dans la grande salle à manger, il y a ce moment près de la cheminée.
Oui, c'est là qu'elle perçoit quelque chose, c'est ça?
C'est ça, une présence.
Une vision même, très brève, de Joséphine Baker. Souriante, en robe scintillante, comme une impression fugace près du piano.
Fugace, mais qui laisse une trace.
Oui, la fameuse plume de Pon retrouvée sur le tapis. Un détail incroyable. Et il paraît que même les robes exposées dans le château, elles semblent vibrer encore un peu.
Ben, c'est ça qui est fascinant. Le lieu semble vraiment imprégné, comme s'il conservait l'écho de ceux qui l'ont aimé. La présence de Joséphine, c'est pas un fantôme, hein, c'est plus une atmosphère.
Une douceur persistante.
Voilà, une douceur, un souffle. La mémoire affective du lieu qui parle, en quelque sorte.
Et cette mémoire, elle s'exprime aussi très concrètement ailleurs, dans la cuisine, par exemple.
Ah, la cuisine, oui.
Camille découvre des murs, mais alors entièrement couverts de carreaux de faïence hyper colorés. Des poissons, des oiseaux, des fruits, des soleils, c'est foisonnant.
Et ce n'était pas juste pour faire joli. Ces carreaux, Joséphine les avait fait poser spécialement. C'était pour les enfants qu'elle accueillait.
Sa tribu arc-en-ciel.
Exactement, sa tribu arc-en-ciel. Chaque carreau, c'était comme une petite histoire, une invitation à l'imagination pour ces gamins venus de partout dans le monde. C'était déjà son projet éducatif qui s'exprimait là.
C'est beau. Alors ensuite, poussée par une intuition, Camille va dans le jardin. Et là, elle entend une voix.
Oui, une voix douce, qui parle de rêve, d'espoir, de fraternité.
C'est le cœur du message, on dirait.
On est au cœur, oui. Ça mène à une scène presque onirique. Joséphine lui apparaît, entourée d'oiseaux, et elle dit cette phrase.
Rêver, c'est commencer à bâtir.
Exactement. Une formule magnifique. C'est l'idée que le rêve n'est pas juste une évasion, mais le début de l'action.
Et le rêve continue, il lui montre les enfants, justement, la fameuse tribu, jouant ensemble.
Oui, c'est la concrétisation de son rêve.
On a même les prénoms et les origines. Akio du Japon, Jeannot de Corée, Louise de Colombie, Jari de Finlande, Jean-Claude du Canada, Moïse et Noël de France et d'Algérie, Brahim du Maroc, Marianne de France, Stelina du Venezuela, Kofi de Côte d'Ivoire, Mara qui était franco-vénézuélienne.
C'est important de les nommer. Ça montre bien l'ampleur du projet. C'était pas juste un symbole abstrait. Elle a vraiment voulu créer ce village du monde, ce microcosme de fraternité universelle, ici au Milandes. C'était assez radical pour l'époque.
Carrément. Et pour boucler la boucle entre rêve et réalité, le lendemain matin, Camille trouve une autre plume, sur son oreiller cette fois.
Comme une confirmation.
Voilà. Et sa discussion avec Brindibule après est intéressante. Le dragon lui explique que Joséphine communique par les sensations, les couleurs, que le rêve, c'est un peu comme le premier pas d'une danse.
Une impulsion créatrice, oui. C'est une belle image. Donc, au final, ce qu'on voit à travers cette visite de Camille, c'est que les Milandes, c'est bien plus qu'un monument historique. C'est vraiment l'incarnation d'un rêve humaniste, celui de Joséphine. Et son empreinte est toujours là, palpable.
Oui, c'est clair. Et la conversation finale entre Camille et Brindibule ouvre une piste de réflexion, je trouve. Ils disent que le rêve de Joséphine, c'était comme un jardin arc-en-ciel.
Mmh.
Et ils se demandent, Et si chacun plantait sa propre graine de rêve pour un monde un peu meilleur?
Et ça nous amène à une question qui résonne bien au-delà de cette histoire finalement. Si on devait nous aussi aujourd'hui cultiver notre propre idéal, notre propre rêve, quelle couleur il aurait ce rêve?